Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, pour cette émission du Cercle laïque, nous allons parler de l'actualité, notamment de tout ce qui se fait pour le soutien à l'Ukraine. Bernard Lebouille.
Bonjour. En ce qui concerne l'Ukraine, c'est vrai que je suis directement concerné puisque j'ai une belle-fille d'origine ukrainienne. Dans le cadre donc à la fois familial, on a commencé à se mobiliser, récupérer des vêtements et des choses de première nécessité qui sont partis avec l'église orthodoxe de Senlis, quelques jours donc après le début de la guerre. Et là, avec le Cercle laïque, nous organisons donc tous les vendredis un rassemblement au Beffroi, donc à Dreux, où on retrouve les familles ukrainiennes qui sont déjà sur Dreux, et maintenant les réfugiés qui sont logés donc sur Dreux et qui viennent maintenant au rassemblement. Cela permet effectivement que les gens se sentent soutenus, ça c'est une première action qu'on peut mener, et après ce serait plus des revendications par rapport à des entreprises françaises qui continuent d'intervenir en Russie pour lesquelles nous pourrions mener localement des actions.
De boycott par exemple?
Peut-être pas, mais dans un premier temps de faire remonter par le biais des magasins, on pensait à Leroy Merlin, faire remonter ça pour le groupe Muliez, qui a aussi les magasins Décathlon. Donc voilà, ça serait une action qu'on pourrait mener. Puis concrètement, on voudrait soutenir les gens qui interviennent dans le cadre du droit commun et tous ces gens qui encadrent pour l'instant les réfugiés, les soutenir et soutenir les familles, mettre en place rapidement des cours de conversation. Ma belle-fille a démarré directement au Relais JIP la semaine dernière. L'idée, c'est qu'ensuite, on puisse avoir ces cours organisés avec différents partenaires, mais au Cercle laïque, où on mettra à disposition donc des locaux au moins deux fois par semaine. Et la deuxième chose serait de mettre en place un parrainage entre familles françaises et familles ukrainiennes, puisque d'autres réfugiés, une quarantaine, vont arriver à nouveau. Et l'idée, ce serait d'avoir un parrainage entre des familles françaises et ukrainiennes pour faire de la conversation avec les enfants et les parents. Voilà.
Et comment sont logées les personnes qui vont arriver?
Là, déjà, pour la première fournée, si je puis dire entre guillemets, les familles ont été logées dans 5 logements autonomes appartenant à la mairie de Dreux, qui sont dans le quartier du Murger. Et ces logements vont être complètement équipés. Mais pour les autres familles, il y avait une liste établie par la préfecture des familles françaises qui s'étaient proposées pour accueillir des familles ukrainiennes. Et les choses sont en train de se mettre en place progressivement autour du relais JIP, qui va avoir la mission d'accompagner un peu ses familles dans les différents logements.
Donc là, il y a effectivement, de la part du Cercle laïque et aussi d'autres associations, puisqu'au pied du Beffroi, il y avait des syndicalistes, des gens de l'Église, des gens de partis politiques différents, de secours catholiques, de secours
aussi,
populaires. Enfin, vraiment, c'est intéressant de voir qu'autour de cette difficulté majeure, les gens surmontent leurs différences et travaillent ensemble à l'accueil des autres.
Qui est cette mobilisation et cette solidarité entre les gens. L'intérêt, c'est quand même de se coordonner. L'idée étant que pour les associations ou les gens qui viennent soutenir, on ne se substitue pas au droit commun, c'est-à-dire que les gens vont quand même avoir un statut avec des papiers et avec une ouverture de droit à la sécurité sociale, à la formation, à l'emploi et la scolarisation pour les enfants. Nous, ce qu'on considère comme association, c'est de venir en renfort de ce qui va être officiellement mis en place pour pouvoir soutenir les familles et aussi les gens qui interviennent officiellement, par exemple au niveau du JIP, parce que comme ils vont avoir le suivi à faire, on peut penser que dans les jours qui viennent, on ne sait pas combien il y aura de fournées de gens qui vont encore arriver, mais ça va demander un travail assez considérable. Donc, le soutien de la population à travers ces associations nous semble vraiment quelque chose de très important. Tant au niveau du rassemblement, pour que les gens voient qu'ils ne sont pas seuls, mais à la fois peut-être pour les accompagner au niveau de la langue, dans un premier temps pour qu'ils puissent au moins arriver à se débrouiller, à avoir les premiers mots pour trouver un emploi et s'intégrer assez rapidement. Voilà.
Quel est le ressenti de votre belle-fille?
Elle était très émue et on sent que les Ukrainiens sont très reconnaissants, nous disent très souvent merci et on a envie de leur dire pour Pourtant, nous, c'est très peu ce qu'on fait, mais ils ont écrit une lettre qui a été lue lors de la réunion au Giprelais, dans laquelle ils exprimaient toute leur reconnaissance vis-à-vis des Français qui se mobilisent pour leur venir en aide.
Et quels sont les matériels dont ils ont besoin? Qu'est-ce que peuvent faire les gens? Parce que finalement, c'est ça aussi.
Alors, ce qui nous était expliqué au niveau du GIP, c'est qu'il y a des gens qui sont partis presque avec rien, sans avoir eu le temps de faire une valise. Donc, la plupart passent par la Pologne, arrivent sur Paris dans deux grands hôtels, et ensuite sont dispatchés sur l'Eure-et-Loire et d'autres départements. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment partis avec rien. Et là, ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on puisse avoir, sous la forme d'une caisse de dépannage, des choses de première nécessité, hein, des produits pour se laver, des choses vraiment basiques. Donc voilà comment on voit un peu les choses. Donc là, tout ça est en train, en fait, de se mettre en place. Et avec le temps, les choses vont se mettre en place. Et avec l'arrivée progressive de ces réfugiés, on aura un meilleur savoir-faire.
Eh bien, merci pour cette information sur les Ukrainiens à Dreux. Et je rappelle que chaque vendredi, à partir de 18h, vous pouvez vous retrouver au pied du beffroi, vous rencontrerez des personnes, et puis vous rencontrerez d'autres qui se mobilisent pour le soutien à ces Ukrainiens.
Vous écoutez Radio Grand Ciel.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Aujourd'hui, justement, en continuité avec ça, j'ai demandé à deux participantes de ces rencontres, alors merci à toutes les deux d'être venues à Radio Grand Ciel. Vous, vous êtes là depuis plus longtemps.
Je suis Natalia, ça fait 17 ans qu'on est en France.
17 ans.
Et à Dreux.
17 ans que vous êtes en France et à Dreux.
Oui.
Et Olga, vous êtes là depuis si longtemps ?
Presque 10 ans.
Presque 10 ans. Vous vous connaissiez avant avec...
Oui, depuis 20 ans, on a fait les études en Ukraine ensemble.
Vous avez fait les études en Ukraine ensemble. Et vous êtes venue à Dreux parce que justement, il y avait Natalia.
Avant, j'étais en Île-de-France.
Voilà.
Ici, comme on a passé, c'est 80 km. Et après, on a dit que peut-être il faut se déménager ici.
Pour choisir l'appartement où il pouvait atterrir.
Voilà.
Là, on est 7 ans.
Ici, d'accord. À Dreux, ça fait 7 ans.
Donc, en fait, quand vous êtes venue ici, ce n'était pas pour une question ni politique, ni de guerre.
Non.
C'était... c'est la vie qui faisait que c'était comme ça.
Mon mari, au début, c'est mon mari qui est parti en France. Et moi, j'étais en Pologne pendant 2 ans avec mon fils. Parce que mon fils, il est né en Pologne. Il est polonais. Et il est arrivé en France comme il a eu 6 ans, au mois d'août, avant d'aller au CP.
Avant d'aller au CP.
Il a pas parlé le français, il a juste dit bonjour, merci, et c'est tout.
Et maintenant, il parle
ouais.
Presque tout le français.
Oui, c'est ça. Et ma fille, elle est née en France. Mais elle est aussi, elle est polonaise. Elle a une frontière, mais quand même, on n'a pas besoin beaucoup de papiers.
Oui, maintenant, oui. Mais avant, quand nous, on est arrivés, ce n'était pas pareil. Nous, on est arrivés après la Révolution Orange.
La Révolution Orange.
Oui, quand on s'est marié avec mon mari,
Et vous, vous êtes installée en France?
Oui, on est installée, mais ce n'était pas pareil comme Olga. C'était très, très long pour se battre pour avoir des papiers. Et au bout de 7 ans, depuis qu'on est arrivé, on a eu nos papiers. Et on a eu la chance qu'on a trouvé des gens qui ont donné promesse d'embauche, qui ont aidé beaucoup, et voilà. Et c'est grâce à eux qu'on a pu, on a été régularisés par le travail.
La régularisation par le travail.
Voilà.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est un peu... C'est important, les relations humaines.
Oui.
C'était aussi votre impression, Olga ?
Oui. Au début, c'est moi qui ai remplacé parce qu'elle était au congé maternité.
Par connaissance, une personne après...
Par l'école, le conservatoire, tout ça, même les KT.
Oui, c'est ça en fait. Par les enfants, on connaît les parents, les autres parents, et puis après, y a des liens qui se créent. Mais par contre, vous rencontrez les parents quand vous emmenez les enfants à l'école. Et... Là, on a évoqué un peu votre histoire qui a fait que vous êtes venue ici. C'est vrai aussi, quand vous évoquiez votre enfance, on était hors antenne. En disant justement cette difficulté dans la vie quotidienne ou cette d'une certaine manière, cette méconnaissance de ce qui est un peu du luxe, non? Quoique des mandarines, ça paraît pas être du luxe, par exemple, c'est le dessert de chaque jour.
Voilà. Mais c'était, avant, c'était comme ça, mais maintenant, bon, même en Ukraine, tout est changé. Maintenant, on peut acheter, si on a des moyens, on peut acheter.
Il y a tout maintenant.
Ouais.
Il y a tout, mais par contre, la retraite reste très basse. Voilà, et puis, la vie quotidienne reste très basse.
Oui.
Mais on peut acheter tout.
Surtout les études, les enfants, ceux qui travaillent, il y a plus en plus moins des écoles publiques. Bon, c'est les écoles publiques, mais les études, c'est payant.
Les études sont payantes.
Et voilà.
Mais vous, quand vous étiez, vous aviez fait des études, puisque vous étiez enseignante, je crois.
Oui, nous, on a fait nos études et on avait... Par exemple, nous, quand on a commencé avec Olga nos études, il y avait 60 places. Il y avait 4 groupes, ça veut dire 120 places, 4 classes.
Oui.
Il y avait 2 classes, les études gratuites. Et l'année d'après, c'était déjà sur 4 classes, un seul classe.
Une seule classe qui avait les études gratuites.
Voilà, et chaque année, moins. Mais aussi, maintenant, il y a ceux qui ont des moyens, ils préfèrent envoyer faire les études, les enfants en Pologne, pas mal, parce qu'après, les diplômes, il est valable en Europe. Les diplômes ukrainiens, c'est compliqué en Europe.
Les diplômes polonais sont reconnus.
Oui.
D'accord. Mais voilà, des choses intéressantes à savoir. Finalement, L'Europe, c'est une bonne chose, alors, à vos yeux.
Par exemple, nos diplômes, c'est que des souvenirs maintenant pour nous.
Oui.
Sinon, il faut refaire les études complètement ici.
Sinon, il faut refaire le cursus.
Mais si on est avec la famille, faire les études et vivre avec un salaire, et les enfants, c'est difficile.
Le plus important, c'est la langue aussi.
Et la langue aussi. Bon, il faut apprendre d'abord, améliorer la langue, les études.
Parler sans accent, tout ça, à l'école, pour être enseignante, il faut bien parler.
Et
après aussi...
Par exemple, hier, à la manifestation, quand on était, il y a une amie Natalia, ukrainienne, qu'elle nous a dit... Voilà, parce qu'elle termine ses études, elle dit, voilà, vers 50 ans, c'est pas encore trop tard faire les études. Voilà. Elle avait son rêve et bientôt, nous espérons qu'elle aura son diplôme.
Justement, vous voyez, alors, parlons de l'actualité maintenant, vous voyez arriver des Ukrainiens et en ce moment, c'est vrai que à cause de la guerre... il y a quand même beaucoup de possibilités. Il y a la carte de séjour tout de suite. Enfin, beaucoup de choses qui sont faites. Et puis, on sait bien que peut-être ça ne durera pas. On ne sait pas. Quels sont vos sentiments et qu'est-ce que vous avez à dire un peu à la fois aux Français et aussi aux Ukrainiens qui arrivent? Parce que peut-être de ne pas... Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut leur dire ou qu'il faut faire?
Comme les Ukrainiens qui arrivent là, ce qu'il y a, ce qui nous touche beaucoup, qu'ils sont pressés pour commencer à travailler.
Oui.
C'est ça. Et on les explique qu'il faut faire les démarches parce que c'est la première fois que la France, c'est pas que la France est habituée. Accueillir tout de suite les étrangers, faire les démarches, donner autorisation, ils ont beaucoup de chance. Mais il faut être un petit peu patient parce que c'est aussi long procédure. Ils font préinscription pour Pôle emploi, après ils vont être inscrits en Pôle emploi. Après, il faut l'entretien personnel avec chaque personne pour savoir ce qu'ils ont fait en Ukraine, ce qu'ils peuvent faire ici. La langue, il y a beaucoup des Ukrainiens qui parlent anglais, ça c'est très bien, même les enfants.
Oui.
Et voilà, et ceux qui sont à Dreux, ils sont logés à l'ancienne Clos du Roi. Et malheureusement, ce n'est pas facile qu'ils soient logés dans des appartements. Il y a certaines familles qui sont déjà logées. Et là, ils sont étonnés. Ils disent, mais pourquoi la France, elle donne... Hier, une maman avec une fille, sa fille, elle a 18 ans. Elle dit, mais Mais pourquoi il donne des grands appartements? Mais par exemple, là, elle dit, pour moi, ça suffit une chambre, une cuisine. Comme je suis avec ma fille, je n'ai pas besoin de plusieurs pièces. Bon, il y a les gens qui, peut-être, qui les réclament plus,
oui,
qui veulent plus, mais il y a les gens qui disent, mais pourquoi on n'a pas besoin autant? C'est juste, on veut travailler et avoir un tout petit logement pour qu'on puisse être quelque part. Parce qu'ils sont dans... Ils sont plusieurs dans une pièce, là.
Au foyer.
Au foyer.
D'accord.
Et, mais oui, on voit qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas, ils veulent être actifs, ils veulent travailler.
C'est ça. Et ils veulent repartir en Ukraine après, ou après le conflit?
On n'a pas encore posé des questions, mais ils ont dit qu'on n'a pas pensé qu'on ne pourra plus revenir dans nos appartements. Oui. Ils pensaient qu'ils vont un petit peu partir, ça va se calmer, qu'ils vont revenir. Ça veut dire que...
Oui, mais quand les pays sont écrasés sous les bombes, ça ne peut pas revenir.
Oui. Voilà. Et même l'Ukraine, le gouvernement ukrainien, ils disent, les gens de Kiev, il ne faut pas encore revenir. Même il y avait 2 semaines que ça se calmait.
Oui.
Mais là, jeudi dernier, ils ont bombardé encore Kiev, centre, oui, Kiev. Il faut pas encore revenir dans les endroits dangereux. Voilà.
Les relations sont faciles avec ces nouvelles personnes?
Facile et pas facile, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'ils ont vu avant. Et quelquefois, s'il y a les gens qui disent... que tout le monde doit. C'est ça la différence entre les gens, l'Ukrainien. Il y a les gens qui disent merci pour les toits.
Oui.
Et il y a le deuxième groupe, il n'y a pas beaucoup.
Oui.
Mais il y a les gens qui disent que quelqu'un nous doit quelque chose. Pas que les toits, mais par exemple, ils ont besoin, parce qu'ils étaient à la guerre, ils ont besoin de ça, ça, ça et ça.
Oui.
Mais c'est
ils
pas...
Ils réclament plus.
Voilà. Malheureusement, il y a les gens comme ça qui le réclament.
Qui arrivent et qui réclament.
Il n'y a pas beaucoup, mais quand même, si, souvent les gens, ils disent que, par exemple, quelqu'un, le Français, il connaît une personne qui réclame beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et souvent, les gens pensent que tous les Ukrainiens sont comme ça.
Ah ben oui, mais ça, c'est toujours pas... Enfin, celui qu'on connaît, on pense que c'est...
Dans tous les pays.
Voilà.
C'est pas qui, oui.
Ouais, ouais.
Mais bon, malheureusement, oui, il y a les gens différents.
Ils n'ont pas de confiance aussi. Parce que moi, je connais, j'ai vu 2 filles... avant de faire les vaccins, parce qu'il y a les vaccins qui sont obligatoires pour les enfants pour aller à l'école. Et il y a aussi les tests pour tuberculose.
Oui.
Et qui est très important, parce qu'en Ukraine, il y a beaucoup de... Beaucoup.
Mais, il y a encore la tuberculose.
Voilà, c'est ça. En Europe, je ne sais pas, c'est un seul pays où il y a tuberculose.
Il y en a encore un peu aussi, il y en a encore un peu, parce que c'est une maladie quand même.
Ouais.
Donc... On peut la choper.
Oui, et même pour faire les tests, il y a beaucoup. Il y a quelques dames qui ont dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Peut-être, je ne sais pas, que c'est les vaccins qui sont dangereux.
Hein.
Oui, ils n'ont pas de confiance du tout.
Et quand ils étaient rassurés,
oui,
quand ils ont eu bonne explication,
voilà.
Olga, elle a parlé avec eux et après... Tout était clair, ils ont accepté.
Donc il faut aussi, dans la relation, pour faciliter,
voilà,
que les choses
soient
claires.
Il faut du temps pour expliquer. C'est pas on dit, voilà, là, ils vont... Non, il faut prendre du temps pour expliquer. Et parce que moi aussi, j'ai expliqué, quand c'était la visite médicale, j'ai expliqué que... Il y a beaucoup des effets secondaires en Ukraine après les vaccins pour les enfants. Et les parents, ils ont peur beaucoup. Et ça peut être les conditions, comment ils gardent tous les vaccins. Est-ce que ça doit être offert? Est-ce que la température toujours respecte? On ne sait pas, mais il y a souvent des effets secondaires. Même là, avant de prendre le vaccin, ils ont demandé est-ce qu'ils risquent d'avoir des effets secondaires? Non, il rassure que tout va bien se passer.
Que les choses vont bien se passer.
Voilà.
Donc ça veut dire que pour l'accueil, dans la vie quotidienne, il faut aussi entendre cette demande parce que l'expérience qu'ils ont n'est pas forcément très bonne.
Voilà. Et ils avaient, comme ceux qui arrivent de Kiev, on a vu qu'ils étaient suivis, ceux qui avaient des problèmes santé. Vraiment, dans les hôpitaux privés, ils avaient leur médecin vraiment qu'ils gardent contact avec médecin. Même là, Olga, elle a dit, une maman, elle a contacté tout de suite médecin par rapport aux vaccins. Et le médecin, elle a dit, vous prenez tout de suite, ce sera bien si vous serez vacciné là-bas, voilà.
Même une fois, le médecin a envoyé les photos de carnet de vaccin parce qu'il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas de carnet de vaccin avec ses enfants. Mais pendant, si par exemple il y a une maman qui n'a pas ça, elles ont signé l'attestation sur l'honneur.
Oui.
Que les enfants, ils ont tous les vaccins qui sont obligatoires
à l'école.
En Ukraine. Parce qu'il y a une différence.
Il faut rajouter encore des vaccins.
Il y a d'autres vaccins.
C'est pour ça qu'il fallait bien.
Il y a un seul vaccin qui est obligatoire en France. Même les médecins français, ils savent qu'est-ce qui est obligatoire en Ukraine et en France. C'est la différence.
Puisqu'ils reçoivent et puis qu'ils doivent faire les vaccins complémentaires.
Oui. Pour aller à l'école. Même pour les adultes, je ne sais pas comment
c'est. Oui, ils ont testé les adultes. Ils ont pris un petit goutte de sang. C'est comme test, grossesse, test Covid, voilà. Oui. Et après, si c'est actif, ça veut dire que les vaccins sont à jour. Si c'est négatif, ça veut dire qu'il faut faire. Moi, ça, je découvre. Je n'ai jamais vu ça. Mais voilà. Moi, je trouve que... La France fait beaucoup de choses pour aider les Ukrainiens.
Fait beaucoup de choses pour aider les Ukrainiens.
Oui.
Et qu'est-ce qu'il faut demander à la population? Parce que finalement, je crois que aussi ce qui est important, c'est de rencontrer des gens et de ne pas rester entre Ukrainiens, non? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Les Ukrainiens sont très... là, je parle les Ukrainiens qui sont ici à Dreux, parce qu'à Paris, je ne sais pas comment ça se passe.
Mais à Dreux, oui.
Mais à Dreux, par exemple, il y a aussi une dame hier, elle a dit qu'il y a une dame française retraitée qui vient et elle apprend l'ukrainien. Et les Ukrainiens, ils apprennent français. Et elle vient, je ne sais pas, deux fois par semaine et ils sont très contents. Ils sont très contents qu'il y ait relation français-ukrainien. Et c'est pas qu'il... Bon, il y a certains peut-être qui... Comme Olga l'a dit, ça dépend des traumatismes qu'ils ont eus. Ça dépend dans quel coin ils étaient là quand ils étaient bombardés. Il y a certains qui sont un petit peu enfermés. Il y a certains...
Au contraire, qui veulent apprendre la langue.
Voilà.
Donc la langue, c'est important.
Oui.
Mais il y a ici, moi, j'ai parlé avec une
dame... Il faut
dame
que tu parles plus fort, parce que là...
J'ai parlé avec une dame qui est là, qui est ici, toi sur toi, c'est ça?
Oui.
Elle était à Mariupol.
Oui.
Il y a son mari qui est toujours là. On connaît la situation.
Qui est à Mariupol?
Oui. Ouais.
Oh là là.
C'est cette dame, au début, elle a dit non, je ne veux pas de vaccin, je ne veux rien du tout. Et après l'explication, finalement, elle était d'accord, elle a pris tous les vaccins qui étaient, même pour elle, il y a les vaccins qu'on prend tous les 15 ans, et pour les enfants aussi. Mais au début, elle était très, très fermée. Elle ne voulait pas parler ni avec les Ukrainiens, ni avec les Français en anglais, parce qu'elle parle l'anglais. Au début, elle ne voulait pas. Elle se fermait dans la chambre, elle ne veut pas sortir.
Et puis maintenant, c'est mieux? Non, il y a aussi ces situations-là.
C'était le même jour. Le matin, elle s'est fermée. Après, une heure après, elle a sorti, elle a commencé à parler. Petit à petit, c'était pendant même plus qu'une demi-heure que j'ai parlé avec elle.
Oui.
Mais après, finalement, bah, moi, j'ai dit que je ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'elle a eu, qu'est-ce qu'elle a vu. Elle était pas. Le trajet entre Mariupol et Paris, oui. C'était 3 jours.
Oui.
Avec 2 petits-enfants.
Oui.
C'était pas. Et finalement, elle a dit que peut-être le test pour les tuberculoses, ce sera bien parce qu'elle ne sait pas avec qui.
Elle était pendant le voyage.
Voilà, pendant 3 jours. Mais au début, elle était très, très fermée. Elle voulait pas parler avec.
Mais elle avait accepté quand même de partir.
Oui.
Ouais.
Ben oui, sous les bombes, il faut mieux partir.
Voilà, c'est ça. Mais quand même.
Même elle ici, a son elle mari était toujours là-bas. Enfermée. Mais moi, j'ai dit qu'il faut. Faut du temps pour parler, écouter ces gens et ils s'ouvrent. Voilà.
Mais moi, je trouve que la France, quand même, elle donne beaucoup de choses parce que bah, tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens à Paris qui sont en situation irrégulière. C'est pas facile. Bah, Natalia, elle sait comment ça marche, la situation pour avoir le papier, titre de séjour. C'est pas facile. Même maintenant, c'est pas facile pour les Ukrainiens.
C'est pas facile pour les gens qui sont. Enfin, pas ceux qui étaient antérieurement.
Oui, c'est
ça. Et c'est pas facile pour les gens qui sont les étrangers.
Oui.
Oui, oui donc peut-être dire aux gens qui arrivent.
Que la France a changé les droits que pour les Ukrainiens. C'était pas, je sais pas, pour l'autre pays, c'est que pour l'Ukraine.
Oui.
Bah, moi, je trouve que c'est déjà très, très bien.
C'est très bien que les Ukrainiens en profitent, mais qu'ils sachent que peut-être après, ils tomberont dans le système général.
Voilà,
comme
donc, se préparer, rencontrer des gens, préparer l'avenir.
Trouver le travail, commencer à travailler, apprendre la langue. Parce que quelquefois, les gens ils pensent que... Y a les gens même qui sont arrivés de l'Est de l'Ukraine et ils pensent que, par exemple, en France, tout le monde donne parce que c'est un pays qui est riche.
Oui.
Donc, si on arrive, tout le monde nous donne tout ça. On a un appartement, le travail, on peut gagner 5 000 euros. On peut mettre à côté, je ne sais pas, les économies. Pendant un an, on peut avoir les économies, 30 000 euros. Tout bah, les gens, ils pensent comme ça. Il y a les gens qui pensent comme ça. C'est pour ça qu'il y a
vous
les
gens...
Vous
leur dites vivement... Non, non, vous leur dites que ce n'est pas vrai.
Oui. Non, ils vont découvrir, petit à petit, voilà. Ils vont découvrir.
Mais si les gens qui n'étaient jamais en Europe, par exemple, entre Pologne, l'Allemagne et la France, les gens pensent que, par exemple, Pologne n'est pas loin de l'Ukraine.
Oui.
Donc, il y a les gens qui sont un peu pas très, très riches. Après, il y a l'Allemagne et la France. Bah, c'est comme les gens avant, ils ont dit que c'est comme en Amérique. On arrive et on a tout ce qu'on veut. Mais ils ne pensent pas que quand même, dans chaque pays, il faut travailler pour avoir quelque chose. Il faut. Si on ne veut pas travailler, bon... Mais il y a les gens qui passent même maintenant.
Et il y a une dame, mais il y a une dame, elle m'a dit, on est arrivé en France et on sait que la France, bon, par rapport à l'Ukraine, elle est riche, mais les gens, ils sont très, très simples.
Ah, ça, c'est sûr.
Que les gens sont simples.
C'est déjà et, ça, c'est une bonne
ouvert.
Chose.
Voilà.
Oui, et ouvert. Que,
et ils sont ouverts, ils sont beaucoup ouverts, ils sont généreux. Et ça,
alors, il vaut bien avoir de toute façon une bonne idée de ceux qui arrivent, et de ceux qui, enfin, pour ceux qui arrivent, de ceux qui sont là, qui accueillent, et pour ceux qui accueillent, que ceux qui arrivent sont positifs, parce que finalement, c'est ça qui construit la fraternité.
Oui,
oui. Oui. Eh bien, c'est... Bon, le temps s'écoule. Merci d'être venu, Radio Grand Ciel, porter ce témoignage sur, sur votre... vos sentiments en ce moment difficile pour vous-même et pour vos familles et pour les Ukrainiens. Aux auditeurs, je dis, eh bien, écoutez ce témoignage et essayez de rencontrer les autres. C'est toujours une si bonne chose.
Et merci pour votre invitation.
Et à la fin, Slava Ukraini.
Slava Ukraini.
Bonne semaine à tous. Au revoir.
Au revoir.